On a toute une série de données, et vous pouvez les trouver sur le site internet de l'Agence française de la dette. Je vous dirai que, d'après ce site, la société qui détient le plus de titres français, c'est le groupe d'assurance AXA. Et les principaux détenteurs, effectivement, sont des grandes sociétés financières, soit assurantes, soit banques. Le nombre de Français qui détiennent en propre, comme citoyens, des titres, ça doit tourner autour de 3 à 4% de la dette française étant détenue par des individus. C'est effectivement, c'est vrai dans sur tous les pays européens, les principaux détenteurs de la dette, et je dis les principaux à concurrence de entre 80% et 97%, ce sont des sociétés financières privées, et varient selon les pays. La proportion de sociétés du pays même et de sociétés étrangères. La France, si une majorité de sa dette était aux mains de l'étranger, ça se rééquilibre progressivement depuis 3 ans. Dans le cas de la Belgique, on est passé à 50-50 entre sociétés étrangères et sociétés nationales. Les étrangères, c'est aussi des grandes banques. Hein. C'est Barclays, Goldman Sachs, Deutsche Bank, etc. Alors, seulement, il y a un travail d'opacité qui est créé, c'est-à-dire une liste précise qui détient exactement quelle proportion. On nous dit, on ne peut pas le savoir. Il y a un marché secondaire, les titres peuvent changer en permanence de main. En fait, quand un État veut savoir exactement qui détient sa dette, le moyen efficace, c'est de suspendre le paiement. Si vous suspendez le paiement, ben, ceux qui détiennent des titres doivent se présenter, mettre pas les masques. Vous pouvez dans une position, je dirais, préalable, leur dire, si vous ne vous déclarez pas, ben, je suspends. Ça peut être un moyen de pression, évidemment, pour un État, parce que il y a une série de sociétés qui servent d'écran. C'est, on connaît très, très bien les noms, Euroclear, Clearstream, ce sont des chambres de compensation, c'est-à-dire dans les chambres de compensation, les banques règlent les soldes de leur position respective. Et donc si Deutsche Bank vend des titres français à Barclays, ça va passer par la clearing house, par la chambre de compensation. Et donc on va nous dire, mais là on ne sait pas exactement à l'instant T qui exactement détient les... Si on ne force pas la chambre de compensation à faire la clarté là-dessus. Donc il y a un élément d'opacité et il faut réussir, pour moi, par l'acte unilatéral de subvention de paiement ou par la menace d'y recourir, un État peut obliger les créanciers à se défaire du masque et à se déclarer. Donc là, on dresse un cadastre des détenteurs de titres. Donc, il y a des moyens de savoir. Et déjà, pour dégrossir, vous allez sur le site de l'Agence de la dette et vous aurez une série d'éléments. Alors, la deuxième question, c'était les pays qui suspendent le paiement voient leur monnaie s'effondrer. Bon, en fait, pour un pays qui suspend le paiement, ça peut être une opération positive. Il faut trouver comment prendre des mesures complémentaires pour accompagner cela, mais une mesure positive de dévaluer sa monnaie. Un des problèmes des pays de la zone euro, des pays comme la Grèce, le Portugal, l'Irlande, mais aussi l'Espagne et l'Italie, c'est qu'il n'a, faisant partie de la zone euro, ils n'ont plus le moyen de dévaluer leur monnaie. Si vous prenez d'autres pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne laisse filer sa monnaie vers le bas pour être plus compétitive, donc laisse filer la livre sterling vers le bas pour être plus compétitive sur le marché continental de la zone euro, pour que ses exportations soient... Tandis que l'Espagne ne peut pas dévaluer sa monnaie, elle est dans la zone euro. Donc, pensez que une dévaluation en soi est négative, pas nécessairement. Des pays, maintenant, qui sont dans la zone euro, regrettent de ne pas pouvoir dévaluer. Parce que s'ils dévaluaient, ils pourraient redevenir plus compétitifs, augmenter leur exportation. Maintenant, effectivement, une dévaluation très forte de la monnaie, s'il n'y a pas de mesures complémentaires, peut entraîner une chute très importante du pouvoir d'achat. Le problème, ce n'est pas de voyager à l'étranger. Le problème, fondamentalement, c'est comment vont évoluer les prix dans le pays et quel va être le pouvoir d'achat des gens. Et donc, une dévaluation doit être combinée à des mesures pour rétablir, pour indexer le pouvoir d'achat de la partie de la population, en tout cas qui a des revenus moyens ou faibles, lui permettre de ne pas avoir une chute importante de son pouvoir d'achat. Donc là, il y a une série de mesures à prendre en termes d'augmentation de salaire et augmentation de sous une forme indirecte du pouvoir d'achat par différentes mesures qui peuvent être prises par le gouvernement, y compris l'utilisation de monnaies complémentaires. Vous pouvez dévaluer votre monnaie par rapport aux monnaies étrangères et mettre en circulation une autre monnaie qui n'a pas de valeur sur le marché international, mais qui a une valeur à l'intérieur du pays. C'est ce que d'ailleurs l'Argentine a fait. Pendant toute l'année 2002, il y a des monnaies locales qui ont circulé, qu'on a appelées patacones. Les provinces ont émis des monnaies. Alors que vous me direz, mais ça sert à quoi? Mais par exemple, les pouvoirs publics émettent des monnaies qui vont être, qui sont distribuées à la population pour acheter les produits de première nécessité et pour payer les services dont on a besoin pour vivre, pour payer la facture électrique, pour payer la facture d'eau, pour aller acheter le riz ou le pain ou de quoi se chauffer, etc. Et comment ça marche? L'État émet ces titres-là et il dit évidemment aux sociétés qui vendent du combustible, aux sociétés qui distribuent l'électricité, aux magasins qui vendent tel et tel produit, que pour l'achat de telle catégorie de produits, ces bons sont valables. Et donc les sociétés ensuite présentent leurs bons à l'État et sont remboursés sur la base de ces bons. C'est le fonctionnement aussi des titres services, des chèques repas, etc. En fait, les chèques repas, c'est ce type de monnaie qui est en circulation et vous allez au grand magasin, vous allez au restaurant avec ce type de chèque qui n'est pas imprimé par la banque centrale. Donc ce sont des formules possibles. Dans le cas équatorien, il n'y a pas eu d'effondrement de la monnaie, là c'est particulier, parce que en 2000, dans une des politiques néolibérales antérieures, l'Équateur a abandonné sa monnaie et est passé au dollar. Et donc la monnaie de l'Équateur, c'est le dollar. Il faudrait pouvoir repasser une monnaie souveraine, mais pour le moment, l'Équateur n'en a pas la possibilité. Donc, la dévaluation est généralement considérée comme comme ayant des avantages économiques importants, contrairement à l'idée qu'on en a, Et ça a des effets positifs si des mesures complémentaires sont mises en place pour que la partie de la population qui en a le plus besoin a la garantie de garder un accès aux besoins et aux services de première nécessité. Et ensuite, ça permet de relancer l'économie, etc. Alors, troisième question, un État peut-il, un État de la zone euro, parce que vous avez dit dans l'Union européenne, en fait dans l'Union européenne, je viens de le dire, on a 17 pays qui font partie de la zone euro, un va y entrer bientôt, c'est une des républiques baltes, il veut absolument y rentrer, elle a tort. Donc on va avoir un 18e membre. Mais on a donc pour le moment 10 États membres qui peuvent recourir. Non, il y a 17 qui ont la zone euro et 10 qui sont dans l'Union européenne et ne sont pas dans la zone euro. Ces 10-là empruntent à leur banque centrale. Donc le gouvernement britannique emprunte à la Banque d'Angleterre. Non seulement l'Angleterre, comme j'ai dit, a sa monnaie souveraine, évidemment, et elle allait se filer vers le bas pour se rétablir. Et deuxièmement, la Banque d'Angleterre achète des titres du Trésor britannique. La Banque de Pologne achète des titres du gouvernement polonais. Donc c'est dans la zone euro. Alors vous me posez la question, est-ce qu'un pays de la zone euro peut le faire ? Les traités ne le permettent pas, mais un gouvernement peut quand même le faire. Là, ça s'appelle désobéir aux traités. Et donc, je pense, comme de plus en plus d'économistes critiques et comme une série de forces politiques commencent à le comprendre, que c'est fondamental de désobéir au sein de la zone euro. Des gouvernements peuvent décider, effectivement, de demander en contravention par rapport aux règles de la zone euro à leur banque centrale d'émettre de la monnaie, donc en contravention, et donc à la Commission européenne de réagir et de menacer de sanctions, etc. Évidemment, si en plus plusieurs gouvernements de la zone euro se mettent d'accord pour désobéir, ça facilite les choses. Et donc il y a toute une série, je pense que ça devient une position majoritaire maintenant, ou qui va devenir majoritaire dans le groupe des économistes affairés, cette proposition-là. Des gens, des amis, comme y compris les coprésidents maintenant du Conseil scientifique d'attache, Jean-Marie Adribet, avec qui je donnais une conférence il y a quelques jours à l'Université d'Évry, on partage cette position. Alors, le Japon. Mais le Japon, sa situation, je ne le prends pas non plus comme modèle, mais c'est tout à fait intéressant, le Japon. Le Japon a une dette publique à 200% de son produit intérieur brut, mais emprunte un taux d'intérêt de l'ordre de 1 à 2%. Et la dette japonaise est aux mains à 95% de japonais. Et donc, il n'y a pas un énorme problème pour les finances japonaises. Quand tu dis la Banque du Japon va maintenant faire fonctionner la planche à billets, ça c'est depuis le nouveau gouvernement. C'est depuis donc les deux derniers mois. Et on va voir ce que ça donne. En fait, ce qu'on peut reprocher au Japon, c'est justement d'avoir eu une politique tout à fait déflatoire, qui ne stimulait pas la demande au Japon. Et donc maintenant, les autorités japonaises qui n'ont rien de gauche, mais se disent que depuis 20 ans qu'elles mènent une politique déflatoire, il est peut-être temps d'en changer. Et donc elles vont relancer, elles essayent de relancer un certain dynamisme économique en amenant la banque centrale à émettre plus de monnaie, essayer de convaincre les Japonais de dépenser plus d'argent, de consommer plus et de relancer l'économie. On va voir ce que ça donne. Mais donc pour le moment, le problème du Japon n'est pas du tout l'inflation, le Japon a une situation déflatoire. Les taux d'intérêt, le taux d'intérêt de la banque du Japon, je crois qu'il est à 0,2%, le taux d'intérêt directeur. Le taux d'intérêt est extrêmement bas. Donc, moi, ce que je pense maintenant, je ne prends donc pas le Japon comme modèle, ce que je pense, c'est que, comme alternative, il faut un programme de rupture radicale qui implique le non-paiement de la dette illégitime, la socialisation du secteur financier, donc la socialisation des banques. Je pense qu'il faut un contrôle des mouvements de capitaux. Je pense qu'il faut imposer une réduction radicale du temps de travail avec le partage du travail et maintien des revenus. Donc, je pense qu'il faut une politique de rupture par rapport à tout ce qui est mené jusqu'à aujourd'hui. Et donc, qui peut mener une telle politique? Je pense notamment à une force politique en Grèce comme Syriza. Si on en a la volonté, Syriza, donc cette coalition de gauche radicale, pourrait mener campagne très clairement par rapport à la population grecque sur ce thème. Pour le moment, elle est à deux doigts, s'il y avait des élections, de passer comme première force politique. Elle est la deuxième pour le moment aux dernières élections. Hein. Vous savez que Nouvelle Démocratie, qui est la droite, a devancé Syriza aux élections de juin 2012 seulement de 2%. Dans les sondages actuels, régulièrement Syriza vient en tête. Ça dépend du mois auquel les intentions de vote sont. Le sondage sur les intentions de vote sont. Mais régulièrement, donc, Syriza vient en tête. Et la question, c'est de savoir, est-ce que Syriza aura le courage, si elle vient en tête, de réellement désobéir au sein de l'euro, de la zone euro, et donc de dire en tant que gouvernement, que force politique au gouvernement, je suspends les ce qu'on appelle les mémorandums imposés par la Troïka à la Grèce, et je suspends le paiement de la dette, et j'établis un contrôle sur les mouvements de capitaux, et je socialise mes banques. Je pense que si Syriza fait ça, ça pourrait changer la donne au niveau européen, et que la Grèce pourrait s'en sortir, et que ça pourrait donner réellement à d'autres pays comme le Portugal, notamment, et certainement l'Espagne, ouvrir une voie de Chypre aussi, bien sûr, l'Irlande, une voie de un tournant dans la zone euro qui impliquerait une renégociation, évidemment, des traités. On remettrait à plat toute une série de choses dans la zone euro. Donc, j'espère que j'ai répondu aux questions qui étaient avancées.
Moi, je voudrais, à propos de Syriza, vous avez dit que si Syriza a le courage de virement à la dette, ça pourrait changer évidemment la donne, même au niveau européen. Mais en Grèce, il y a de forts mouvements populaires, comme en Espagne, comme au
Portugal, et pourquoi, où se situe ce courage? Est-ce qu'il y a des explications conjoncturelles, structurelles? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Le courage par rapport à qui, à quoi, à quelle institution? Oui, je peux préciser. Je pense que le succès électoral de Syriza en mai et puis en juin de 2012 est dû à son courage, c'est-à-dire le fait de dire nous, comme force politique, nous demandons à la population de voter pour nous afin qu'on soit au gouvernement, et si nous sommes au gouvernement, nous nous engageons à supprimer toutes les lois qui ont été imposées par la Troïka et qui impliquent des reculs sociaux. Ils ajoutaient « Nous suspendrons le paiement de la dette jusqu'à ce que la croissance économique revienne et permette éventuellement, et pendant la période de suspension de paiement, on réalisera un audit et on aboutira à une renégociation de la dette. » Bon, ils ont mené ils ont parlé aussi de la socialisation des banques, ils ont parlé de lever l'immunité des parlementaires. Tout ça était très populaire. Et donc, Syriza, qui aux élections de 2009 avait obtenu 4%, est monté à 17% en 3 ans, grâce à ce discours courageux. Et Syriza est passé comme la première force politique dans les grandes villes et dans la génération ou dans les couches d'âge 18 ans à 55 ans. Syriza était majoritaire dans cette tranche d'âge-là, qui est une tranche quand même vachement large de la population en état de voter. Et donc, alors, courage par rapport à qui ? Ben, courage par rapport à la Commission européenne, courage par rapport au Fonds monétaire international, courage par rapport à la bourgeoisie grecque, courage par rapport à l'Église orthodoxe, courage par rapport à toute une série de secteurs. Et là, c'est, si vous voulez, je ne suis pas d'un optimisme extraordinaire. Je suis en contact avec Syriza. J'ai eu une réunion d'une heure et demie avec le président de Syriza, Alexis Tsipras, le 5 octobre 2012, donc après les élections. J'étais invité à prendre la parole avec lui au Festival de la jeunesse de Syriza, et j'ai pris la parole dans un meeting où il y avait 3 500-4 000 personnes. Et avant ça, j'avais une longue discussion la veille, j'avais une longue discussion avec lui. Alors, je ne suis pas extrêmement optimiste, parce qu'il y a des pressions énormes qui s'exercent sur Alexis Tsipras, sur la direction de Syriza. Elle s'exerce dans le sens de la réelle politique, et donc comme Syriza est diabolisé, tous les médias importants en Grèce disent si vous votez Syriza, ça va être l'isolement complet du pays, ça va être un drame. Syriza, on présente Syriza en diabolisant, et donc la tendance de Syriza, quelque part, c'est de dire, ben non, on est responsable, et si la population vote pour nous, réellement, ça va être un mieux. Mais du coup, que fait Tsipras ? Il fait un voyage aux États-Unis, il demande à rencontrer le FMI, le FMI rencontre Tsipras, donc Tsipras, en Grèce, dit, ben, vous voyez, le FMI me rencontre, donc je suis un interlocuteur. Tsipras va en Allemagne et va rencontrer Schäuble, qui est le ministre des Finances, et il dit donc en Grèce, ben, si Schäuble me rencontre, est d'accord de me rencontrer, ben, c'est que si j'étais chef du gouvernement, il continuerait à me rencontrer. Il prévoit un voyage à Pékin, un voyage à Delhi, à New Delhi, en Inde. Donc il a une préoccupation de se faire reconnaître comme une force qui pourrait gouverner le pays. Mais du coup, les pressions sont énormes, évidemment, parce que quand il va voir ces gens-là poussent dans un certain sens. Et alors, à l'intérieur de Syriza, il y a un débat, il y a un secteur de gens que je connais bien, d'économistes que je connais bien, qui disent, bon, ben, sur la dette, quand même, c'est pas sûr qu'on pourrait déclarer un moratoire unilatéral. Proposons une renégociation, une conférence européenne. Oui, suspendons certaines mesures, mais pas toutes. Et donc, voilà. Donc, je me demande réellement si Syriza maintiendra un tel discours. Si elle ne le maintient pas, ou si elle va avec un certain discours radical, et puis une fois au gouvernement n'applique pas, ben là, je crains une désorientation terrible. Je crains que les gens, y compris qui auront voté Syriza, seront déçus et se tourneront vers Hope Dorée. Hope Dorée, il faut savoir, possible, parce que là, on ne dit pas du tout ici à l'opinion publique européenne ce qui se dit en Grèce réellement. Il faut savoir que Syriza remet en cause le paiement de la dette, mais que Hope Dorée a très bien compris qu'elle devait remettre à fond aussi en cause le paiement de la dette. Hope Dorée dit qu'il ne faut pas payer la dette qui nous est imposée par une Europe dominante. Hope Dorée parle d'audit de la dette. Donc l'extrême droite... Vous savez, si Hitler a gagné les élections en Allemagne, c'est qu'il a récupéré Il était national-socialiste. Il a eu un discours contre les banquiers. Il a un discours contre les créanciers de l'Allemagne. Il a dit qu'il fallait suspendre le paiement d'une dette injuste imposée par le traité de Versailles et par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Je veux dire, faut pas, la gauche parle de la dette, mais l'extrême droite intelligente de type fasciste parle aussi de la dette. Et donc, il faut pouvoir avancer un programme radical qui distingue la gauche de l'extrême droite. Et si la gauche commence à mettre de l'eau dans son vin, au prochain scrutin, on peut avoir un vote vers l'extrême droite. Donc j'espère bien que ça ne se passera pas, mais pour moi, on est dans une telle situation de crise et de déliquescence. Vous avez parlé des mobilisations en Grèce. Il y a eu d'énormes mobilisations, il y en a encore, mais beaucoup de gens qui ont fait 13-14 grèves générales sont épuisés. Leur pouvoir d'achat a baissé radicalement et une partie de la population grecque pense maintenant à sa survie. Et donc on assiste à un début de déliquescence, de perte de substance, avec des gens y compris qui se disent « Mais moi, je me suis battu, j'ai mené autant de grèves, et toi, tu t'es pas encore battu, tu rentres seulement dans la lutte maintenant. » Vous savez, il commence à y avoir des oppositions. On connaît bien tout syndicaliste, toute personne qui a mené des grèves, etc., et qui s'est fatiguée, qui voit les derniers à arriver 2 ans plus tard, il a tendance à dire « Bon, c'est maintenant que tu arrives. » ça commence à être très compliqué en Grèce. Et donc, on va avoir des mois décisifs. Et pour moi, ce qui est fondamental, je dirais, pour Syriza, plutôt que de faire une tournée internationale, il faudrait plus faire une tournée en Grèce de mobilisation par la rue, provoquer des élections anticipées quand il est important. Et là, je pense qu'ils hésitent un peu de ce côté-là. Donc, oui, j'ai certaines inquiétudes. Je pense qu'il y a réellement des possibilités d'un virage radical, mais qu'il ne faut pas rater le moment où la situation est mûre et où elle commence peut-être à pourrir. Parce qu'un fruit mûr, il finit par pourrir si on ne le cueille pas à temps et qu'on ne le consomme pas.